Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ils sont ou seraient plusieurs centaines, difficile de connaître leur nombre exact. Il faut aussi compter avec leur famille, femmes et enfants. À mesure que le territoire contrôlé par l'organisation État islamique se réduit, la question du devenir des djihadistes survivants et notamment des djihadistes étrangers susceptibles de vouloir rentrer dans leur pays d'origine se pose avec de plus en plus d'urgence. Les autorités des pays européens, France et Grande-Bretagne notamment, ne cachent pas leur souhait d'en voir le plus grand nombre possible éliminé sur le théâtre irako-syrien. Pour réduire la taille du problème, que faire des djihadistes après la chute de l'organisation État islamique? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Martin Pradel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste des dossiers terroristes qui se consacrent notamment à la vous consacrez notamment à la défense des Français partis combattre en Syrie. Et Pierre Conessa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien responsable de la direction des affaires stratégiques au ministère de la Défense, auteur du guide du petit djihadiste, c'est aux éditions Fayard. Merci à tous les deux d'être avec nous. Avant de commencer, j'aimerais vous faire écouter quelqu'un. Il s'agit de la ministre française des Armées, Florence Parly, et c'était dimanche matin chez nos confrères d'Europe 1.
Nous sommes engagés aux côtés de nos alliés pour obtenir la destruction de Daesh. Et nous faisons tout pour cela. Vous savez que nous avons engagé des moyens aériens, nous avons engagé des moyens d'artillerie extrêmement lourds dont nous disposons seuls avec les Américains. Et donc, ce que nous voulons, c'est aller au bout de ce combat. Et bien sûr, si il y a des djihadistes qui périssent dans ces combats, eh bien, je dirais que c'est tant mieux. Et si ils tombent entre les mains des forces syriennes, eh bien, ils dépendront de la juridiction des forces syriennes.
S'ils périssent au combat, c'est tant mieux. Que pensez-vous de ça, Martin Pradel ?
Bon, je suis forcément un peu navré d'entendre un ministre de notre gouvernement dire qu'elle souhaite ou elle se réjouit de la mort de quelqu'un. Je pense que forcément cela est navrant. Je crois que ce qui nous distingue de cette organisation qu'est le groupe État islamique, qui est un groupe terroriste, c'est la conception que nous avons de la vie humaine. Nous respectons la vie, nous la respectons, eux la méprisent. Je ne voudrais pas que dans notre dialectique, et surtout quand il s'agit d'un responsable du gouvernement, on entende trop souvent ce genre de propos, parce que l'impression que l'on a, c'est qu'il n'y a pas tant de respect pour la vie humaine que cela de la part de Madame Parly.
Pierre Conessa, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre de Madame Parly?
Moi, je considère qu'on est dans un théâtre de guerre. Dans la guerre, soit vous tuez, soit vous êtes tué. Donc, je veux dire, on ne va pas risquer la vie de soldats irakiens ou de soldats français pour éviter de tuer des Français. On ne va pas demander le passeport au type qu'un sniper est en train de viser. Donc, si ces types sont tués, ils sont tués parce qu'ils se sont engagés dans un combat. La déclaration de Mme Parly, je sais que ça choque sur le théâtre français, mais enfin, une guerre, c'est comme ça que ça se passe, hein, malheureusement.
Oui, mais je pense que sur ce sujet, qu'un belligérant perd de la vie dans le cadre des lois de la guerre, c'est une chose. Le problème, c'est que ce que dit Madame Parly, c'est pas tellement que les lois de la guerre doivent s'appliquer. Elle dit que ça nous arrange, finalement, que ces gens perdent la vie. Et ça nous arrange pas parce que ce sont les lois de la guerre qui s'appliquent, mais parce que ça résout un autre problème que nous aurons plus tard. Et c'est vraiment là qu'il est le problème. Parce que au final, on convoque les lois de la guerre quand ça nous arrange. Les lois de la guerre disent que celui qui pose les armes doit être respecté dans son intégrité, là, c'est beaucoup moins clair. Parce que celui qui serait un prisonnier de guerre, il devrait être respecté dans son intégrité, et il faudrait surtout qu'il soit jugé. Et c'est sur ce sujet que nous attendons, je pense, le gouvernement.
C'est à partir de ce moment-là, quand les armes sont déposées, que le problème existe, Pierre Conessa?
Non, mais on a un problème juridique de base, c'est qu'on n'est pas en guerre.
Techniquement, on n'est pas en guerre. Oui.
On n'est pas juridiquement en guerre. Le Parlement n'a jamais voté sur l'intervention parce que c'est une résolution de l'ONU dans laquelle nous nous sommes engagés sans aucune analyse politique. Ça, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que on va se féliciter de la disparition de l'État islamique, ce dont moi aussi je me réjouis, mais tout le discours, comment dire, de la victimologie de l'État islamique est déjà prêt. C'est-à-dire, voyez, le seul État islamique de la planète a été tué par les mécréants, parce que je vous signale que l'Arabie Saoudite ne participe pas à la campagne. Donc on est dans une situation où diplomatiquement, on a tous les moyens de régénérer le discours de la victimisation de l'État islamique, qui ne va pas obligatoirement disperser, qui ne va pas obligatoirement se traduire par la disparition de la cause djihadiste, qui va se traduire exclusivement par la disparition du territoire djihadiste, ce qui est tout à fait différent. Et donc sur le fond,
l'idéologie va continuer à exister, c'est ce que
l'idéologie va encore continuer à exister. Et puis d'autre part, n'oubliez pas que comme nous ne sommes pas en guerre, si demain un jeune Français est tué par des soldats français qui sont aujourd'hui aux côtés des forces irakiennes, les parents pourraient très bien introduire une instance en justice en disant que leur fils a été abattu de manière illégale, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas en guerre.
Je reviens sur cette hypothèse, Martin Pradel. Est-ce que c'est le cas si ce jeune homme était abattu en dehors du territoire français? Est-ce qu'on pourrait introduire une requête en justice?
Moi, je pense qu'il y a une difficulté quand on vise à dessein, dans un cadre qui n'est pas celui de la guerre, une personne qui n'est pas justement précisément en position de combattre.
Mais là, vous vous placez dans la situation où il a déposé les armes,
non,
ce qui n'est pas le cas.
Je pense que lorsque l'on est dans des combats, c'est une chose. Je pense que ce à quoi peut-être vous faisiez référence, c'était notamment les campagnes de drones qui frappent des zones qui ne sont pas nécessairement des zones où il y a des belligérants ou des personnes qui sont engagées dans des combats, mais qui ne sont pas en train de combattre. La difficulté, elle est sans doute là. Celui qui aura les armes à la main et qui vise un soldat irakien, un soldat français, américain, quel qu'il soit, en fait, s'il perd la vie, les armes à la main, je ne vois pas comment sa famille pourra venir s'en plaindre. Les choses seront différentes si on vise à dessein une personne qui n'est pas en train de combattre, qui ne représente au moment où on l'abat de danger pour personne. Là, je pense que ça posera peut-être un problème juridique, mais à ce stade, ça me semble être plus un cas d'école qu'autre chose.
Alors, il y a je vous parlais d'une enquête du Wall Street Journal qui affirmait qu'au moment de la chute de Mossoul, des djihadistes français, et je mets le terme entre guillemets évidemment, ont été sous-traités au service irakien. Est-ce que c'est possible ça, Pierre connaît ça?
Ça dépend ce que contient le terme sous-traité. Si vous remettez...
Ils ont été abattus par les services iraniens à la demande des Français, pour le dire clairement.
Irakien, pardon.
Oui.
Non, ça dépend ce que vous entendez par sous-traité, parce qu'encore une fois, ce sont des gens qui sont allés combattre sur un théâtre extérieur, qui est celui de l'État irakien. Bon. Donc que ces combattants étrangers soient remis aux forces irakiennes, après la façon dont ils seront effectivement traités, ça c'est une question plus grave, c'est-à-dire effectivement, sont-ils abattus, sont-ils enfermés, je sais pas, comme un Guantanamo local, par exemple. Il faut bien le rappeler quand même, ça existe toujours, Guantanamo. Donc si c'est ça la situation, c'est autre chose. Mais en tout état de cause, il ne faut pas commencer à poser le problème des combattants français comme s'ils étaient différents de tous ces combattants étrangers qui sont allés sur le territoire irakien pour se battre contre les forces irakiennes. Donc la première étape, c'est d'abord de les remettre aux Irakiens et qui auront un processus de justice dont on peut douter, si vous voulez, en termes de respect des règles de la défense. Mais en tout état de cause, il ne faut pas qu'on prenne le pas, si vous voulez, encore une fois, en essayant de donner des leçons de droits de l'homme sur cette question-là, qui est une question grave pour les Irakiens.
Martin Pradel, en Irak, les combattants étrangers encourent tout simplement la peine de mort. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit entrer en ligne de compte si on cède ces combattants qui ont été faits prisonniers au régime irakien?
Moi, si vous voulez, ceux qui sont prisonniers par l'Irak doivent être jugés au terme d'un processus qui est satisfaisant en termes d'exercice des droits de la défense et finalement de chaîne pénale. Si la France fait le diagnostic que la chaîne pénale est dysfonctionnelle et que les droits des personnes ne sont pas respectés, la France, son devoir, c'est de faire en sorte que les droits fondamentaux de ces personnes soient respectés, à défaut de quoi le devoir de la France sera de se dissocier de ce mécanisme. Parce que finalement, de quoi parle-t-on? On parle de gens. Soit ce sont des combattants, et parce que nous sommes dans un théâtre de guerre, et à ce moment-là, il faut appliquer les lois de la guerre. Mais les lois de la guerre font que, justement, on ne peut pas traiter comme cela une personne qui n'est qu'un belligérant. Soit on est au contraire dans une règle de police parce que nous combattons des terroristes et à ce moment-là, ce sont le droit pénal, ce sont les règles du procès qui doivent s'appliquer. Mais en aucun cas, on peut considérer qu'il y aurait une sorte de parenthèse, comme d'ailleurs on l'a vécu par le passé dans l'histoire récente de l'humanité avec Guantanamo, que vous avez mentionné à tout à fait juste titre. On ne peut pas imaginer que soudain, aucune règle ne viendrait s'appliquer à ces gens.
Alors, on ne sait pas trop ce qui est arrivé aux survivants de Raqqa. Il y a manifestement eu des négociations, des djihadistes syriens ont été évacués dans un premier temps, et puis la bataille finale avec les djihadistes étrangers retranchés dans le centre n'a apparemment pas vraiment eu lieu. Que sont-ils devenus? Ils ont été pris en charge par qui? Les forces démocratiques syriennes, les services occidentaux? Est-ce qu'ils passent dans le flot des réfugiés? C'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, Pierre Conesa.
Ah ben oui, bien sûr, puisque vous savez bien que les statistiques, on dit entre 500 et 700 Français. Vous vous rendez compte de l'erreur du Delta? C'est-à-dire qu'il y a 200 personnes dont on ne sait pas exactement où elles sont passées. Ensuite, on sait que il y a énormément de contingents. Il y a des francophones aussi, hein. Il y a près de 500 Belges. Donc, vous voyez, on a des gens qui rentreront, si vous voulez, avec des qualificatifs dont qu'on n'est pas capable d'identifier tout de suite par des voies, encore une fois, qu'on n'est pas capable de contrôler. Quand vous pensez qu'à Malte, on assassine un journaliste parce qu'il fait une enquête anticorruption, vous dites qu'il y a de la corruption à Malte qui permettrait de faire rentrer n'importe qui par n'importe quel moyen. Donc, rentrer dans l'espace Schengen, si vous voulez, n'est pas une difficulté. Et donc, ensuite, on a évidemment une question qui est une question de fond, c'est-à-dire, ces revenants sont-ils des repentis? Ça, c'est à la justice d'en décider. Et troisième question, c'est comment est composée cette population qui risque de revenir sur le territoire français? C'est-à-dire des hommes, des femmes, dont on a longtemps supposé qu'elles étaient effectivement des victimes consentantes, mais des victimes. Et puis des enfants, pour qui ça va être un problème très très difficile. C'est le seul, il y a que les enfants pour lesquels le gouvernement a déjà posé les bases, si vous voulez, d'une circulaire pour la prise en charge. Mais c'est, les autres questions sont des questions extrêmement difficiles. Et encore une fois, on n'est pas sûr de contrôler la totalité du flux rentrant.
Martin Pradel, on a parlé un petit peu du système judiciaire irakien il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut vraiment parler de système judiciaire en Syrie?
Non, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de monopole d'État. Enfin voilà.
Je pense que, enfin, dire qu'il n'y a pas d'État en Syrie, nous-mêmes, nous avons des difficultés à considérer qu'il y a un État. Aujourd'hui, je pense que nous avons des interlocuteurs, disons. Ensuite, la justice syrienne, je pense pouvoir dire que il n'y a aucune raison de la considérer malheureusement, hein, avec le sérieux qu'il conviendrait. Quelle est l'indépendance d'une justice comme celle de Bachar al-Assad. Je pense que aujourd'hui toutes ces familles qui sont en fait perdues, hein, faut quand même bien le comprendre, avec des enfants, eh bien quand ils parlent des parents, je pense qu'il faut qu'on considère qu'il faut mettre en œuvre les moyens pour pouvoir les juger. Quand c'est nécessaire,
Y compris les femmes, donc, hein, bien sûr.
Oui, bien sûr, les femmes sont parties là-bas. Il faut qu'elles s'expliquent. Et puis, si elles ont commis une infraction, ben elles ont commis une infraction. Elles seront punies pour cela. Vous savez, cet après-midi, moi, j'étais dans le couloir du juge des libertés et de la détention à Paris. Je plaidais pour une jeune femme qui est rentrée il y a un an. Croyez bien que les juges en France ne sont absolument pas dans la tendresse avec ces jeunes femmes. En aucun cas. Et ce, depuis longtemps. Donc, les femmes seront jugées, les hommes seront jugés, les enfants, eh bien, les enfants, ce sont des petits Français. On ne peut pas imaginer que ces enfants soient livrés à eux-mêmes dans une zone de guerre et laissés à l'abandon par la France.
Vous avez pu en rencontrer certains de ces enfants, Martin Pradel ?
Bien sûr.
Et alors, vous avez pu échanger avec eux ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est quoi leur ressenti ?
Moi, j'ai rencontré des enfants qui sont de jeunes enfants. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Des enfants qui sont comme ceux de chacun d'entre nous. Des enfants qui n'ont absolument rien de terrifiant. Ce sont des enfants qui méritent notre protection. Et il faut que nous les arrivions à dire clairement que nous allons leur donner. Je vais vous dire, il y a aujourd'hui des enfants qui sont détenus en Syrie. La France le sait. Et la seule chose qui empêche ces jeunes enfants de rentrer vers la France, c'est que la Turquie empêche qu'ils passent. On empêche qu'ils passent parce qu'on ne veut pas de leurs parents. Et ces enfants sont aujourd'hui en grand danger. Il faut absolument que nous permettions à ceux qui peuvent rentrer de rentrer parce que ces enfants sont en danger de mort.
Ils sont en danger, mais est-ce qu'ils sont un danger, Pierre Conesa? Moi, je me souviens avoir vu des vidéos assez traumatisantes qui ont été publiées par les Hamas et autres organes de propagande de l'État islamique. Est-ce que ne peuvent pas, pour ceux qui sont peut-être les plus âgés, constituer un danger à long terme?
Il est très difficile de répondre. D'abord parce qu'effectivement, les films de propagande que vous avez vus, je les ai vus aussi. Bon, ils participent d'une campagne de propagande. Mmh, là, c'est de montrer que les enfants sont de jeunes lions, enfin des lions.
Les lionceaux du califat.
Les lionceaux du califat. Bon. On ne sait pas exactement quel est leur degré de conviction
dans la
réalité.
On ne sait pas non plus quel est le degré de montage dans ces vidéos.
Voilà, exactement. Bon. Et puis si on réfléchit bien, il y a plus de school shooting aux États-Unis qu'il n'y a eu de massacre par des enfants en Syrie quand même. Donc gardons la proportion des choses. Donc sur le fond, il faut effectivement que ces enfants soient traités à part. C'est l'objet de la circulaire de mai de cette année que le gouvernement a essayé de mettre mettre en place pour que l'aide à l'enfance puisse prendre en charge ses enfants. Mais ça pose un problème extrêmement compliqué. Déscolariser, d'abord même pas d'identité administrative, c'est-à-dire qu'ils n'ont souvent presque parfois n'ont même pas été déclarés, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas d'identité, même pour passer les frontières, c'est un grave problème pour aller les récupérer. Si les parents sont gardés là-bas, on n'a aucun moyen de les identifier, on ne sait pas si combien s'ils existent. Ensuite, la difficulté, c'est de les réintégrer dans un cursus scolaire, avec un passé aussi compliqué que celui-là. Donc, il faut qu'on s'en charge, ça c'est une évidence, et faire preuve à leur égard d'une humanité pour laquelle j'avoue que j'ai moins de doutes quand il s'agit des parents, puisque eux sont des volontaires, sont des gens qui ont pris des actes volontiers d'opposition à la France, à la République. Moi, j'ai toujours une question que je continue à me poser, c'est que quand même, pour des gens qui sont battus pour la constitution d'un État islamique, qui préfèrent revenir dans un pays de mécréants, continuent toujours à me poser quelques problèmes. C'est-à-dire, pourquoi ne partent-ils pas en Arabie Saoudite? Ils n'y partent pas pour une raison très simple, c'est qu'ils risquent la peine de mort. C'est-à-dire, aucun des États arabes, d'ailleurs, ne les accepterait.
En admettant que certains de ces combattants et de leurs épouses parviennent à rentrer en France, s'ils sont pris en charge, parce qu'il y a eu quelques cafouillages parfois, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Quel statut juridique? On a longtemps parlé, après le 11 septembre 2001, du statut d'ennemi combattant, ou de combattant étranger. Quel statut on peut apporter à ces gens-là, Martin Pradel?
Moi, je pense que soit on les range dans la catégorie des criminels, je pense qu'il faut... Vous savez... On a besoin de sérénité. On a besoin de... Il faut arrêter de bouleverser les catégories en permanence. Dès qu'il y a un événement de traumatisme, on en fait aussi un traumatisme. Et puisqu'on bouleverse tout, on remet en cause toutes les règles. Soit ces gens sont des criminels et à ce moment-là, traitons-les comme des criminels. Qu'est-ce qu'on fait aux criminels? On les punit et on les suit. Moi, ça ne me pose aucun problème, et je pense que c'est la solution. Créer une catégorie sui generis, une sorte de d'émanation, parce que finalement, ces gens nous posent des problèmes. Ils nous posent des problèmes, mais ils nous posent des problèmes évidents, surtout si on décide de se voiler la face. On se voile la face si on commence à créer des catégories. En fait, on crée une catégorie totalement inutile, alors que ce dont nous avons besoin, c'est de suivi. La sécurité, ça veut dire des moyens. Parce que on ne résoudra pas, même en créant une catégorie comme celle que vous avez invoquée, qui est assez sinistre si on considère l'histoire des hommes, la catégorie du combattant qui ne relève pas de la Convention de Genève, finalement, elle est assez sinistre parce que c'est un moyen d'éviter l'application des lois que nous avons tous décidées. En fait, on ne résout aucun problème en créant des lois d'exception. En fait, c'est surtout une manière de ne pas mettre les moyens sur les sujets importants.
Tu reconnais ça, une réaction?
Oui, la catégorie que vous évoquez est une catégorie spécifiquement américaine.
Absolument. Alors,
c'est une invention que George Bush, dans une grande créativité juridique, avait essayé d'inventer pour ne pas appliquer les conventions de Genève, pour ne pas les laisser rentrer sur le territoire américain, pour ne pas leur offrir les garanties de la justice américaine. Et puis, il avait fait cette extraordinaire création qui s'appelle le manuel de la torture, c'est-à-dire le manuel légal de la torture pour Guantanamo. Bon. Donc là, de ce côté-là, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, les moyens juridiques existent. Le problème, c'est celui que vous évoquez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un afflux de gens qu'on va de toute façon mettre en détention, en attendant l'instruction du procès, mais dans des conditions carcérales qui sont particulièrement dégradées en France, et donc qui vont être des foyers de radicalisation, puisqu'ils vont apparaître comme les héros, etc.
Ça veut dire qu'il ne faut pas les mettre avec les autres détenus?
Mais non, mais ça veut dire
qu'il faut prendre les moyens de les prendre en charge. Et ce n'est pas leur offrir des conditions de détention confortables, c'est simplement... Peut-être chercher à les écouter, pardon, je vous ai interrompu, chercher à les écouter et à déminer ce problème. Aujourd'hui, on ne fait rien pour déminer le problème. On les regroupe effectivement dans des prisons qui ressemblent parfois à des cloaques. C'est indigne. C'est pas indigne parce que c'est inconfortable, c'est indigne parce que ça crée des problèmes.
Et l'autre problème, c'est l'état de délabrement de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on juge un individu 5 ans après et qu'il a passé 5 ans en détention provisoire pour peut-être aborder au bout du compte, lui dire qu'il a exécuté sa peine, ça veut dire qu'on n'a pas traité la question. Donc je laisse de côté, si vous voulez, la lâcheté des hommes politiques qui n'ont jamais fait une campagne électorale sur le fait qu'il fallait modifier le système carcéral et donner des moyens à la justice, mais ça c'est un procès qui malheureusement est passé. Et donc aujourd'hui on se trouve face à un afflux de gens qui sont des gens particulièrement dangereux qu'on ne sait pas traiter ou environner, si vous voulez, autrement.
Merci Pierre Conessa et merci à vous Martin Pradel d'avoir participé à cette émission. On est loin d'avoir épuisé le sujet, c'est toujours très court évidemment à chaque fois. Merci également à Florence Ponce et Arthur Tossou qui vous ont fait venir. Merci à Anthony Bellard qui était à la réalisation. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.